Complètement à l'Ouest, l'émission qui parle de tout sauf d'immobilier. Présentée par Philippe Boyer, directeur de l'innovation chez Covivio.
Il y a parfois des rendez-vous qu'il ne faut absolument pas rater. Encore faut-il les repérer, les organiser, j'allais dire les mettre en scène, en tout cas, les célébrer. Et pour cette émission de Complètement à l'Ouest, aujourd'hui fait partie de ces jours un peu particuliers, puisque nous célébrons à la fois la 60e émission et mon invité de ce jour n'est autre que celle que j'accueillais pour la première fois au micro de cette même émission, un certain 17 septembre 2019. 6 années se sont écoulées et 59 émissions plus tard, Complètement à l'Ouest tient toujours son cap, celui d'un moment où l'éclectisme est la boussole et la qualité des invités notre étoile. C'est parti pour cette 60e émission, larguons les amarres et voguons à l'Ouest, cap à l'Ouest, Complètement à l'Ouest.
Complètement à l'Ouest, sur Radio Imo et Radio Territoria.
Bonjour Laetitia Vito.
Bonjour Philippe.
Et un très chaleureux bienvenue pour la deuxième fois au micro de Complètement à l'Ouest. Vous connaissez forcément la fameuse réplique « Il faut que tout change pour que rien ne change » attribuée à Alain Delon dans Le Guépard de Luschino Visconti. Et de changement, il en fut et il en est toujours question à ce micro qui, au fil des mois, a vu et voit défiler philosophes, scientifiques, musiciens, géopolitologues, diplomates, journalistes, géographes, botanistes, spécialistes du numérique, de l'espace, de la jeunesse, du parfum, de l'énergie nucléaire. J'arrête là mon énumération car depuis presque 7 années, Complètement à l'Ouest ne se met strictement aucune barrière tant nos thèmes ont été et sont des plus variés. Laetitia Vito, je l'avais dit lorsque je vous avais accueilli pour la première fois à ce micro, vous êtes à la fois auteur et conférencière, spécialiste des transformations du travail. Vous avez déjà publié du labeur à l'ouvrage, c'était en 2019, ainsi que En finir avec la productivité en 2022. Et vous venez de publier, il y a quelques semaines, L'atout âge, paru aux éditions Erol, livre dans lequel vous explorez un sujet essentiel et trop peu discuté, la place de l'âge au travail. Je n'oublie pas de dire que vous êtes aussi l'auteur d'une newsletter hebdomadaire, Nouveau départ, nouveau travail, dans laquelle vous analysez les mutations du travail. Bref, chère Laetitia Vito, vous êtes, c'est le moins qu'on puisse dire, une observatrice très affûtée sur tout ce qui touche de près ou de loin à cette idée, à cette réalité qu'est le travail dans nos sociétés. L'écrivain britannique du début du XXe siècle, Jérôme K. Jérôme, avait cette phrase qui ne manque pas de saveur, en tout cas je pourrais sans problème la graver au fronton de mon domicile, « J'aime le travail ». Il me fascine, je peux rester des heures à le regarder. Laetitia Vito, je ne vous en voudrais pas si vous n'étiez pas au courant ou si vous aviez oublié que nos émissions commencent toujours par un court extrait sonore, histoire de se mettre dans l'ambiance du thème de l'émission. Et là, nous allons entrer de plein pied dans notre sujet, c'est-à-dire le travail et la diversité générationnelle. On l'écoute.
Benjamin, je vais vous poser une de nos questions les plus révélatrices pour tous nos stagiaires. Alors soyez genre, il faut que je cogite à max, ok? Vous vous voyez où dans 10 ans?
À 80 ans.
Un conseil avant que j'aille la voir?
Elle déteste quand on cligne pas les yeux, ça la rend dingue.
Bonjour Jules, je suis Ben, votre nouveau stagiaire.
Ravi que vous trouviez ça amusant aussi.
Mieux vaut en rire.
Je vous enverrai un email dès que j'aurai besoin de vous.
J'attends de vos nouvelles, monsieur. Oh, pardon, vraiment désolé.
Vous êtes le nouveau chauffeur de Jules?
Non, à vrai dire, je suis son stagiaire.
Ça, c'est très très drôle.
Mon stagiaire trouve à s'occuper.
Monsieur Convivialité, tout le monde l'adore.
Qui s'habille bien, impressionne. On rentre sa chemise, pourquoi est-ce que plus personne ne rentre plus rien? C'est pour toi qu'il faut le demander.
Je suis Fiona, la masseuse maison.
Ben.
Quel effet ça vous fait?
Oh, c'est tout à fait bon.
T'es pas aussi vieux que je pensais, en fait.
Nos investisseurs pensent qu'un PDG aguerri pourrait te soulager efficacement.
Fais-moi donner des cours de PDG.
Je n'ai jamais rien connu de tel dans ma vie, ce truc énorme, magnifique, passionnant que vous avez créé. N'oubliez pas qui a fait ça. De bons moments.
C'est dans ces moments qu'on a besoin de quelqu'un sur qui on peut compter. Parce que vous êtes mon...
stagiaire.
Eh bien, j'allais dire stagiaire slash meilleur ami.
Voilà, vous avez peut-être reconnu la bande annonce du film Le Nouveau Stagiaire en anglais The Intern, qui met en scène Robert De Niro, 70 ans, et qui devient le stagiaire senior, on l'a compris, pour une start-up de mode fondée et dirigée par Jule Austin, interprétée par Anne Hathaway. J'ai bien sûr pas choisi cet extrait vidéo au hasard du fait que votre ouvrage, L'Atout Âge, a pour sous-titre « Si nous changions de logiciel dans notre rapport à l'âge ». Alors, avec cette sympathique comédie sortie il y a une dizaine d'années, tout se noue autour de stéréotypes générationnels, certes un petit peu caricaturaux, mais tellement véridiques, technophobie, rigidité, vitesse, zapping, code vestimentaire, avec bien sûr ce happy end à l'américaine, sous forme de message, il faut savoir dépasser tout ça et célébrer la complémentarité. Et ce qui m'amène très directement, Laetitia Vito, ma première question, qui est centrale de votre livre, puisqu'il s'agit de l'âge, sujet dont on parle très régulièrement dans les médias, en particulier bien sûr avec le sujet des retraites. Alors il y a l'âge que nous avons, il y a celui que nous avouons, il y a celui que nous voudrions avoir, celui qu'on nous prête, celui qu'on nous donne, celui que nous défendons. Bref, Laetitia Vito, qu'est-ce que l'âge ?
Quelle belle question à laquelle il faudrait plusieurs heures pour répondre, tant cette question simple, en fait, appelle une réponse complexe. L'âge, comme vous venez de le dire, c'est une notion plurielle. Il y a ce dont on parle souvent, qui est l'âge chronologique, l'année de naissance, celle qui est inscrite sur nos papiers d'identité, celle qui est enregistrée à l'état civil. Et cet âge chronologique, on a une espèce d'obsession pour lui. Hein. Quand on dit à quel âge, on pose la question concernant l'âge chronologique. Et pourtant, dans l'histoire de l'humanité, l'âge chronologique, on s'en contrefichait pendant l'essentiel de notre histoire. On ne savait pas quel âge chronologique on avait. On s'est mis à célébrer les anniversaires que très récemment dans l'histoire. Ça a à peu près un siècle que ça s'est massifié, ce genre de rituel, de célébrer les anniversaires. Un peu plus d'un siècle, puis avant ça, c'était la bourgeoisie qui le faisait. Donc pourquoi est-ce qu'on s'est mis à enregistrer les naissances ? D'abord, deux raisons. Alors c'est d'abord l'Église qui l'a fait. Alors, deux raisons, c'était d'abord pour... en gros, avoir les soldats et les contribuables. Donc, c'était pour les soldats et pour l'impôt. Et puis, au 19e siècle, ça a permis d'ouvrir un certain nombre de services. Donc, c'était quelque chose de beaucoup plus positif, en particulier l'école. L'école de la Troisième République, elle prenait toute une ribambelle de gamins nés la même année pour leur promettre, pour leur proposer une éducation et puis ensuite les envoyer à l'usine. Et on a commencé à fonctionner, voilà, avec des classes d'âge à qui on offre quelque chose de standardisé. Mais l'âge chronologique n'est évidemment pas le seul. En réalité, si on ne voit pas les trois ou quatre autres que je vais citer maintenant, on n'a qu'une vision très partielle de l'âge. Le deuxième, c'est l'âge biologique. Je veux dire que c'est là que le bât blesse parfois. L'âge biologique, c'est l'âge de nos artères, de nos os, notre cerveau, tous les systèmes biologiques qui font notre corps. Et ce qui est intéressant avec l'âge biologique, c'est qu'il peut être plus ou moins, on va dire, inférieur ou supérieur à l'âge chronologique. S'il est inférieur, tout va bien, vous avez une meilleure espérance de vie, vous avez potentiellement plus d'années à en profiter quand vous aurez l'âge chronologique d'arriver à la retraite. Et puis, en revanche, vous pouvez aussi avoir un âge biologique supérieur à votre âge biologique. Et là, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, c'est une histoire d'écart. Et puis, on peut ajouter à l'âge biologique l'âge ressenti. Alors l'âge ressenti, on en parle beaucoup, on a tous, en vieillissant, un âge ressenti, enfin tous, en tout cas, une écrasante majorité d'entre nous avons un âge ressenti inférieur à notre âge chronologique. On oublie un peu quel âge on a. D'ailleurs, passé 40 ans, souvent, on est obligé de faire la soustraction. Je suis née en telle année, on est en telle année. Voilà, c'est pas quelque chose qui est complètement... qui est un élément fixe de notre identité, l'âge chronologique. Souvent, l'âge ressenti, plus on avance en âge chronologique, plus l'âge ressenti est beaucoup plus faible que l'âge chronologique. Et c'est quelque chose de, évidemment, positif, parce que si on se sent jeune, c'est qu'on se sent avoir l'énergie, l'envie de vivre, l'envie de faire, l'envie d'accomplir des choses au travail et ailleurs. Donc c'est un élément, évidemment, très, très positif. Il peut être problématique quand il y a un écart avec les autres âges. Pourquoi ? Parce que si notre âge ressenti est très bas, mais que l'âge biologique est beaucoup plus élevé, eh bien, on peut oublier qu'on est à risque d'un point de vue santé sur un certain nombre de choses et puis ne pas faire les changements de vie qui devraient s'imposer. Si on a un âge ressenti très bas, mais que le quatrième âge que je vais mentionner maintenant est très différent, en l'occurrence l'âge social. Alors l'âge social, c'est l'ensemble des attentes qui pèsent sur vous en fonction de l'âge que vous avez. Vous arrivez à tel âge, on s'attend à ce que vous ayez fait ceci ou cela. Vous arrivez à 18 ans, il faut que vous ayez votre permis de conduire. Vous arrivez à 22, il faut que vous ayez quitter le domicile parental, et puis si possible que vous soyez en couple. Et puis arrive la trentaine, il faut que vous ayez des enfants, hein, parce que si vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas dans l'âge social. Il faut que vous ayez atteint tel jalon dans votre vie professionnelle, à tel âge, et ainsi de suite. C'est les attentes qui pèsent sur vous, qui peuvent être très gênantes, parce qu'elles ont un élément déterministe, et que surtout les attentes, ces marqueurs de l'âge, ils sont de plus en plus en décalage avec la réalité des vies fragmentées. C'est-à-dire, il y a de plus en plus de jeunes qui passent pas le permis. Plus en plus de jeunes qui se mettent pas en couple, qui veulent pas se mettre en couple. D'autres qui ne veulent pas avoir d'enfants. D'autres qui n'ont pas les moyens de se payer un logement. Et malheureusement, on devrait parler d'immobilier, vous voyez. C'est un gros sujet pour les plus jeunes. Donc, ils restent dans le domicile parental. Ils loupent, voilà, ce marqueur d'âge qui était autrefois associé à l'entrée dans l'âge adulte. Et puis, last but not least, on pourrait citer encore l'âge professionnel. L'âge professionnel, c'est deux choses. C'est le niveau d'avancement dans votre métier ou dans votre carrière. Donc, surtout si vous êtes dans une carrière linéaire, on a une des attentes là aussi par rapport à votre niveau d'expertise ou d'expérience. Mais ça peut être aussi l'ancienneté dans un métier. Et c'est très bien d'avoir choisi le stagiaire avec Robert De Niro parce que voilà, c'est l'exemple un peu extrême, on va dire, de ce cas de quelqu'un qui a un âge chronologique avancé, un âge professionnel aussi puisqu'il a déjà 40 ans d'expérience probablement ou plus, mais qui a comme ancienneté zéro. C'est un bébé. Voilà, c'est un bébé. Donc c'est quand même assez intéressant parce que on dit toujours des seniors, on va revenir sur ce mot, je sais, hein, mais qu'ils sont chers ou qu'ils seraient chers. C'est absolument faux lorsque l'ancienneté est de zéro. C'est-à-dire que si vous êtes dans un système où vous bénéficiez de la paye à l'ancienneté, vous allez en effet devenir plus cher à mesure que vous avancez dans votre vie professionnelle, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Vous avez beaucoup de gens qui changent de métier, qui se reconvertissent, qui deviennent stagiaires à un âge plus avancé. Bon, ça, dans la vraie vie, c'est pas très courant. Mais voilà. Donc tout ça, c'est intéressant, c'est riche. Voilà, l'âge chronologique, l'âge biologique, l'âge ressenti, l'âge social, l'âge professionnel. Et le diable se cache dans les détails et plutôt dans les écarts les uns avec les autres. Et c'est là qu'on comprend les dynamiques ou les éventuels problèmes liés à l'âge au travail.
Alors, au début de votre livre, vous vous attachez à rappeler quelques faits démographiques de la France, histoire de planter le décor. Vous dites d'abord que la pyramide des âges a changé. Je vous cite, faute d'un solde migratoire suffisant, les projections de l'INSEE indiquent qu'à partir de 2040, on devrait voir le nombre d'actifs commencer à diminuer. Bref, que la population active vieillit. Il y a ensuite ce chiffre connu en France, seuls 38% des 60-64 ans travaillent contre 60% en Allemagne ou en Suède.
Et alors, c'est déjà plus, hein. 38%, c'est un chiffre qui est déjà... en fait, ça change très, très vite.
Il est de combien maintenant ?
Alors, on serait plutôt... On a dépassé les 40 largement. Le nombre de sexagénaires actifs augmente.
C'est plutôt une bonne nouvelle. Et enfin, que les stéréotypes liés à l'âge ont dans notre pays la vie dure, tant envers les jeunes qu'envers les seniors. Alors, l'humoriste Gaspard Proust disait que les seniors, ce sont des séniles qui s'ignorent. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, néanmoins, quand même, plus de vieux, moins de jeunes avec toujours autant de freins et de stéréotypes, comment est-ce qu'on fait bouger les lignes ? C'est la ligne, c'est évidemment l'axe central de votre livre, difficile de résumer en quelques minutes, pourtant il faut quand même l'essayer.
Je vais essayer. En fait, je prends trois grands chantiers dans le livre qui sont le chantier du recrutement, le chantier du développement, ce qu'on appelle dans le monde des ressources humaines le développement des talents, on pourrait dire la gestion des carrières, hein, du point de vue d'une organisation qui emploie des individus. Et puis le dernier chantier, c'est l'environnement de travail et l'organisation du travail. Si on commence par, je vais faire très rapidement, hein, mais si on commence par le recrutement, en fait, sortir de cette, justement, de cette vision figée de l'âge qui accompagne chaque âge d'un certain nombre d'attentes très précises, qui ne collent plus à la réalité des vies qui sont faites de transitions multiples, de gens qui ne se reconnaissent pas en fait dans ces attentes. Donc ça veut dire recruter des gens qui ne sont pas dans le moule. Donc sortir de cette idée du profil idéal, qui va avoir 5 ans d'expérience exactement dans ce métier-là, le bon diplôme, mais alors pas trop non plus, parce qu'on imaginera qu'il sera trop cher ou pas assez malléable. Et là, ça ne concerne plus personne. Qui a exactement le bon nombre d'années d'expérience, le bon âge, la bonne formation ? Personne. Donc c'est la raison pour laquelle beaucoup plus de gens se disent atypiques. Ils disent, moi, j'ai un profil atypique. Oui, vous avez un profil atypique. Il y a tellement de gens qui ont un profil atypique que atypique est le nouveau typique. Et donc, ça, du côté des entreprises et des organisations qui recrutent, ça veut dire recruter des gens, des débutants dans un poste qui ont plus de 40 ans. Des personnes managers qui ont effectivement le bon nombre d'expériences, qui vont être plus jeunes pour manager l'équipe. Et inversement, avoir beaucoup plus de finesse pour accompagner des gens qui vont avoir des parcours plus chaotiques, plus différenciés, avec des transitions, etc. Et il y a un point bloquant très très fort, c'est celui des personnes dont la carrière se tasse, s'arrête, se bloque, parce qu'à un moment dans leur vie, ils ont rencontré un accident. Enfin, ils ont eu un accident de vie. Cet accident de vie, ça peut être quelque chose de très banal, comme avoir 3 enfants quand on est une femme, même 2, hein. un enfant handicapé, un conjoint qui a un cancer, soi-même une maladie grave, un parent qui arrive en perte d'autonomie, qui a une maladie, qu'on accompagne en fin de vie. Voilà, des moments qui vont parfois vous obliger à basculer à temps partiel, à devoir en quelque sorte ralentir votre carrière, pas parce que vous ne voulez plus, mais parce que la vie vous l'impose. Et une fois que vous avez fait ce choix, entre guillemets, ou plutôt que ça vous est tombé dessus, eh bien, plus personne ne veut de vous quand vous revenez. Que vos enfants aient grandi, que vous ayez le nid vide et que vous avez plein de temps à donner à votre travail, que vos parents soient partis et que du coup, vous avez plein de temps là aussi à redonner à votre travail, eh bien, le fait d'avoir été un certain temps à temps partiel ou d'avoir quitté le monde du travail pendant un certain temps fait que vous êtes grillé professionnellement. Et c'est un désastre, c'est un gâchis monumental, rien qu'à l'échelle d'un pays comme la France. On voit par exemple cette catégorie de personnes qu'on appelle ni en emploi ni en retraite, qui sont trop jeunes pour toucher la retraite, mais considérées comme trop âgées dans le monde du travail pour qu'on leur propose des opportunités intéressantes. Dans certains cas, ce sont des personnes aussi qui peuvent avoir été usé par un premier métier qui n'a pas été conçu pour être fait pendant plus de 40 ans. Un métier qui vous essore tellement que vous ne pouvez pas tenir pendant 43, 44, 45 ans, qui sait combien de temps on travaillera demain. Et ça, c'est un gaspillage monumental pour les individus, pour la société, pour les entreprises. Il faut qu'on apprenne à valoriser des parcours qui sont faits de moments différents, de trous dans le CV, de moments d'aidance, de moments de parentalité, de voyage aussi, pourquoi pas. Et c'est les organisations qui arriveront à le faire, qui arriveront à valoriser ces compétences dont on fait l'acquisition quand on fait toutes sortes de choses ailleurs, sont celles qui vont trouver des leviers de croissance extraordinaires et puis des viviers de talents fabuleux que leurs concurrents ne trouveront pas.
Il y a un chapitre dans votre livre qui s'intitule « Enrichir les concepts de junior et de senior ». Et vous plaidez pour qu'une révolution presque copernicienne ait lieu, qu'on arrête de dire senior et junior, parce que c'est très largement insuffisant pour décrire des parcours professionnels. Vous venez de l'expliciter. Quelle serait la bonne terminologie, si tant est qu'elle exista, à utiliser, à inventer, qui valoriserait les parcours et l'expertise?
Alors je pense que junior et senior, c'est bien commode, mais c'est binaire. Donc, quand on a deux individus, il y a l'un qui est le junior de l'autre ou le senior de l'autre, qui d'ailleurs peut n'avoir rien à voir avec leur âge chronologique, comme dans le cas de Robert De Niro avec Anne Hathaway. C'est Robert De Niro le junior et Anne Hathaway la senior. Mais on voit bien l'ambiguïté du terme, c'est qu'il s'applique à la fois pour parler de l'âge chronologique et ou pour parler de l'âge professionnel. Et donc, c'est très ambigu. Et selon les domaines, le mot se réfère à des réalités complètement différentes. Dans le monde des politiques publiques, on est senior. Senior, c'est à partir de la dernière décennie de carrière. Donc, fin de cinquantaine et puis soixantaine, on va les appeler seniors. Mais dans d'autres cas, seniors, ce sont ceux qui sont dans les EHPAD. Donc, des inactifs, nettement plus âgés, qui peuvent être en situation de dépendance. Dans le monde professionnel, on peut chercher un chef de projet senior. On parle en réalité de quelqu'un qui a 33 ans et 6 ans d'expérience à ce poste-là et qui est senior par rapport à un stagiaire qui serait recruté. Enfin, donc, c'est incroyablement fourre-tout, ce qui fait que ça ne veut plus rien dire. Et donc, en fait, on a besoin de remettre un petit peu plus de richesse de vocabulaire. Alors, dans certains cas, être spécifique, parler d'ancienneté, parler de compétences sans s'intéresser à l'âge, parler d'expérience sans s'intéresser à l'âge.
Utiliser des mots français, quoi.
Utiliser des mots, précis. Ou alors, on peut parler d'âge chronologique. Si on cherche la diversité des âges dans son organisation, mesurer combien on a de gens entre 20 et 30, entre 30 et 40, entre 40 et 50, 50 et 60, 60 et 70, voire au-delà, ça sera plutôt dans les conseils d'administration ou dans les postes de pouvoir qu'on aura quelques septuagénaires.
Alors, on va marquer une courte pause musicale avec l'écoute d'un morceau absolument évident, puisqu'il reboucle vraiment à la perfection avec le sujet de votre livre, Laetitia Vito. Il s'agit de ce titre des Beatles, When I'm 64, quand j'aurai 64. Et je dis qu'il match, pour employer un terme bien anglophone, parfaitement bien avec votre livre, puisque votre sous-titre de livre, c'est 64 clés pour transformer la diversité générationnelle en force. Et donc, ce titre des Beatles correspond tout à fait, n'est-ce pas, chère Laetitia Vito ?
Absolument.
On l'écoute.
When I get older, losing my hair, many years from now, still be sending me a Valentine, birthday greetings, bottle of wine. If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me?
Elle est de retour en studio avec Laetitia Vito qui publie L'atout âge chez Erol. Il s'agit d'un plaidoyer pour accepter la diversité et en faire une richesse pour l'entreprise ou l'administration. Alors vous écrivez que pour que les lignes bougent sur ce sujet de l'intergénérationnel, les entreprises doivent repenser leur politique RH, vous en avez déjà parlé, en formant les managers à une approche intergénérationnelle. Concrètement, comment on forme et qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette formation pour apprendre à penser différemment ?
Alors, je pense que cette formation, elle se fait aussi sur le tas par la diversité. C'est-à-dire qu'on apprend tellement au contact de générations différentes. Pas forcément en étant devant un formateur qui vous présente des PowerPoint pour vous expliquer ce que c'est que l'intergénérationnel. Donc, c'est finalement par l'organisation du travail qu'on crée des environnements dans lesquels on apprend les uns des autres. Et cette diversité d'âge, pourvu qu'il y ait un environnement qui est inclusif, qui est agréable, qui est bienveillant, permet à chaque individu d'apprendre au contact des autres. Et c'est très fort, cet apprentissage-là. Il contribue même à la sécurité psychologique. Le fait d'avoir quelqu'un qui a une génération au-dessus ou deux générations au-dessus de vous, nettement plus âgé, Ça vous permet de vous projeter dans votre propre grand âge ou vieillesse, ou vieillissement, en tout cas, pas encore vieillesse, mais vieillissement. Et donc, de vous donner le signal que vous avez le droit d'avancer en âge tout en restant dans l'organisation. ça vous donne un modèle, parfois un modèle positif de « ah bah tiens, j'ai envie de ressembler à ça ». La vie ne s'arrête pas là. Or, et notamment pour les femmes, il y a vraiment souvent cette idée « oh là là, passé 40 ans, c'est fini, faut que j'en profite un maximum là maintenant, parce qu'après c'est fini, c'est la mort, c'est la mort ». Et puis bah non, non, c'est que le début, on est à peine à la mi-vie à 40 ans. Hein. Donc il y a encore énormément de temps, énormément de choses à faire, énormément de réinventions à faire. Et inversement, le fait d'avoir des personnes plus jeunes que vous, ça vous permet aussi de vous projeter dans l'avenir du projet sur lequel vous travaillez, dans qui vous étiez quand vous étiez plus jeune aussi, de vous souvenir. Ça vous connecte aux différentes versions de vous-même, parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher de s'identifier aux autres. Et c'est vrai que ce sujet-là présente la spécificité d'être absolument universel. C'est-à-dire que, à condition qu'on ne meure pas à un jeune âge, on est amené à avoir tous les âges, plus ou moins. Voilà, selon l'âge auquel on décède, on a tous les âges. Et donc, pourvu qu'on fasse ce travail de projection, de réflexion, d'empathie, en fait, il suffit de mettre de la diversité générationnelle dans un groupe pour que vous fassiez ce travail, cet apprentissage, pour que vous vous formiez à l'intergénérationnel.
Sur le tas, quelque part.
Exactement. Après, ça n'empêche pas des formations pour battre en brèche les idées reçues sur les effets de génération, cette idée selon lesquelles la génération Z fonctionne comme ci, la génération Y comme ça, et puis les boomers, ils seraient comme ci, comme ça, puis responsables de tous les problèmes de notre société. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, ce qu'on peut apprendre, par exemple, c'est à regarder, à distinguer l'effet d'âge, l'effet de génération, l'effet de période historique. Donc ce prisme, hein, par ces trois outils, ça permet d'avoir beaucoup plus de finesse dans la manière d'appréhender les sujets d'âge et de génération pour éviter de coller des stéréotypes et puis finalement de perpétuer l'âgisme dans son organisation.
En parlant de stéréotypes, vous avez prononcé le gros mot, si je puis dire, génération Z. Pour vous, c'est quoi? C'est un concept marketing qui n'a aucun sens?
Alors, c'est pas nouveau, on a toujours stigmatisé les jeunes. D'ailleurs, l'idée selon laquelle les jeunes seraient paresseux, c'est absolument pas nouveau. Les Grecs anciens le disaient déjà. Donc voilà. Donc on a toujours, est-ce de la jalousie, hein, de la part des vieux, dire les jeunes, ils veulent rien faire. Voilà. Donc c'est absolument pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est la manière dont on massifie ces stéréotypes dans les médias, dans le monde du consulting, pour finalement mettre sur le dos d'une génération un certain nombre de symptômes ou de phénomènes sociaux qui concernent tout le monde. Et ça a commencé en réalité très très fort avec les millennials et l'internet. Donc c'est marrant quand même, on voit bien à quel point c'est absurde parce que les millennials ont parlé que d'eux il y a 10 ans, maintenant ça y est ils sont déjà has-been. Ça va vite quand même, ça va très très vite. Donc les Gen Z ils n'en ont plus pour longtemps, qu'ils le sachent, et bientôt ils seront libérés.
Toujours au titre de ce changement de regard que les entreprises devraient opérer, on en a parlé à l'instant, il y a aussi celui envers les aidants. Les aidants sont et seront de plus en plus nombreux, ne serait-ce que du fait démographique implacable. Nous sommes et serons tous un jour ou l'autre aidants ou aidés. Et je rappelle que l'aidant, c'est cette personne souvent en activité professionnelle qui aide au quotidien une personne âgée ou en perte d'autonomie, un enfant malade ou handicapé. Aujourd'hui, un Français sur quatre est aidant et soutient un parent, un enfant, un conjoint ou encore un proche en situation de fragilité. J'en viens à ma question, ou plutôt deux questions en une. Pourquoi et comment se préoccuper particulièrement des aidants? Et puis vous dites notamment que les aidants développent des compétences précieuses. Quelles sont ces compétences-là?
Alors, quand on accompagne un parent en fin de vie, le nombre de tâches qu'il faut coordonner, la charge mentale qui est la nôtre quand on vit ce genre de situation, les questions médicales, les questions même managériales, il faut manager une équipe, sont considérables et cette expérience de vie, cette épreuve est souvent très très formatrice, même si on ne l'a pas choisi, Et c'est vrai que l'idée de valoriser les compétences des aidants, elle est mise en avant depuis quelques années pour dire qu'en fait, derrière un trou dans le CV ou derrière un passage de temps partiel, se cachent des expériences de vie qui vous font progresser, souvent qui vous font apprendre tout un tas de choses. Et pourquoi l'entreprise ne regarderait-elle pas ces expériences-là comme source d'acquisition de compétences, d'apprentissage, etc. Donc c'est une idée qui n'est pas complètement nouvelle, ça fait quelques années qu'on en parle, mais je trouve qu'on en est encore très loin, parce que le problème, c'est que les aidants vont être de plus en plus nombreux et que le monde du travail qui est ce qu'il est aujourd'hui ne les accueille pas volontiers, surtout ne leur redonne pas des opportunités quand ils veulent revenir à fond. Et c'est vraiment un frein majeur aujourd'hui. On risque de sous-estimer finalement, ou de surestimer plutôt le nombre d'actifs qui seront pleinement disponibles dans 20 ou 30 ans. Parce que non seulement il y aura un relatif déclin de la population active, même si on arrive à faire travailler les gens un petit peu plus longtemps, mais surtout, on a beaucoup d'individus qui vont s'occuper de la génération d'au-dessus et puis de la génération encore au-dessus, qui vont peut-être être moins disponibles pour le travail. Et ça questionne le rapport au temps. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être travailler moins d'heures ou peut-être avoir la possibilité d'avoir un job ambitieux, un job dans lequel on s'épanouit, mais voilà, moins d'heures dans la semaine, quitte à en faire plus après. Est-ce que finalement ce modèle, d'ailleurs le modèle des 40 heures par semaine, parce qu'on en est plus ou moins encore là-dedans, hein, malgré les 35 heures, en gros, beaucoup de gens font 40 heures par semaine. C'est un modèle qui a déjà quasiment un siècle. C'est le Fordisme. C'est Ford qui l'a inventé. On a inventé le week-end il y a moins d'un siècle. C'est quand même incroyable. C'est tellement récent. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'une nouvelle innovation dans le rapport au temps ? Si vraiment les intelligences artificielles nous font faire des gains de productivité, est-ce qu'il n'est pas le temps de revenir à cette prédiction que faisait Keynes, lui aussi, il y a plus de 100 ans, qui disait qu'avec les gains de productivité, on allait travailler beaucoup, beaucoup moins d'heures ? Lui, il envisageait la semaine de 15 heures. Elle n'est jamais venue. On travaille exactement le même nombre d'heures que dans l'économie industrielle où l'automobile était au centre de tout il y a un petit siècle. Donc peut-être que ces évolutions démographiques, elles devraient nous inviter
à repenser
ce rapport au temps.
Alors, on va se détendre un peu après avoir parlé des aidants, toujours en évoquant ce monde du travail, mais sur un ton plus léger. Je vais vous faire écouter un court extrait sonore et vous allez me dire ce que cela vous inspire.
Allez, encore une réunion, on va changer le monde un lundi matin à 9h.
Hello, salut tout le monde.
Bonjour Maxime.
Bonjour à tous. Je suis peut-être mauvais, mais le fait de voir vos ganaches alors que je suis toujours mentalement au fond de mon lit et psychiquement au bord du gouffre, ça promet encore une semaine où on va bien se marrer.
Allô, vous m'entendez ? J'ai l'impression qu'ils m'entendent pas. Allô ? Allô, allô ?
Ouais, on t'entend Véronique, ouais. On t'entend. On n'entend même que toi.
On va attendre encore un peu que les autres arrivent et on va commencer.
Bah oui, après tout, j'ai que ça à faire de contempler vos tronches.
Mathéo, arrête d'embêter ton frère, s'il te plaît. Oui, il est très beau ton dessin, ma chérie.
Butez-moi, quoi! Véronique, juste, je me permets de couper ton micro, hein.
Ouais, salut, désolé de mon retard, j'étais en train de finir un mail. Alors, on parle de quoi? Moi, je suis debout depuis 6h du matin, je suis prêt, hein.
Moi, je suis bien réveillé, Antoine. Je vous propose de démarrer, ça fera venir les autres.
Bah oui, faillot que tu es, t'as mijoté toute la nuit, y a plus qu'à servir.
Ah, c'est pas le bon doc, ça bug, je suis dans le train, désolé. Quelqu'un le support?
Alors, perso, moi, j'ai plutôt besoin d'un support émotionnel. Je vais craquer, en fait.
Ouais, Maxime, peut-être que tu pourras nous montrer ça cet après-midi parce que ça rame trop, là. Et Clovis, tu veux commencer le tour de table? T'as l'air dans tes pensées, t'es avec nous?
Putain, mais la table, je vais lui enlever les yep et je vais vous l'envoyer dans la gueule, ça va être vite fait.
Bon, alors ça vous intéressera sans doute beaucoup, hein. Comme je vous le disais vendredi, au risque de vous surprendre, je suis toujours sur le projet d'automatisation des contrôles des dossiers d'entrée en relation avec les équipes de Luc. Et comme vous aviez déjà l'air passionné vendredi, je vais le répéter, on devrait arriver au bout de l'exercice mercredi.
Ok, mais ce serait bien d'arrêter de rêvasser et d'accélérer un peu sur ce chantier.
Et voilà encore une remarque constructive, Antoine, hein. La seule chose qu'on va accélérer d'ici mercredi, c'est ma demande de mobilité si tu continues à créer autant de valeur dans les échanges, hein.
Attends, quoi ?
Merde, j'ai dit sa voix haute, là.
Bon, vous avez sans doute reconnu le télétravailleur que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Question de circonstance, Laetitia Vito, où en sommes-nous sur le télétravail ?
Ah, c'est marrant, ce qu'on entend dans cet extrait, c'est vraiment cette vision post-Covid du télétravail dans toute son absurdité, dans tout son théâtre en fait. C'est très théâtral. Et ce qu'on a appris avec le Covid, c'est qu'il y avait un théâtre de la productivité qui changeait de forme par rapport au présentéisme d'avant. Donc avant, pareil, on faisait semblant de travailler, mais au bureau. Alors, on avait tous les codes pour faire semblant de travailler. Il faut aller d'une pièce à l'autre en portant plein de dossiers, en fronçant les sourcils pour avoir l'air d'être vraiment très occupé, l'air d'être toujours débordé. Voilà, il y a tout un jeu comme ça. On avait les onglets ouverts sur l'écran. Et puis, quand il y a quelqu'un qui passe, hop, on change d'onglet parce qu'on était en train de faire son shopping tranquillement. On change d'onglet pour avoir l'air d'être sur son tableau Excel. Donc, Voilà, et ce que ça montre là, c'est que ce présentéisme, il s'est déplacé en ligne avec le théâtre de finalement faire semblant de travailler en imaginant une réunion de plus, alors que ça sert à rien. Voilà, tout un tas de choses qui sont bullshit, hein, pour utiliser ce mot-là. Donc c'est assez amusant. Alors le télétravail, maintenant je pense qu'on est encore à une étape d'après, qui est celle d'un curseur qu'on déplace. Et on a eu un petit retour de bâton par rapport à cette période de Covid et de immédiate post-Covid, où on dit bon, peut-être que ça suffit un peu, voilà. Donc on a eu un petit retour, un léger retour en arrière. Je dis léger parce que les médias ont fait leur chou gras de ces grandes annonces faites par des PDG qui disaient maintenant fini la récréation, retour au bureau à 100%, ou bien fini la récréation, on passe de 3 jours flexibles à 2 à 1, enfin bref, selon les cas. Et ça, pour moi, c'est juste un phénomène conjoncturel. C'est-à-dire que en gros, le télétravail, il s'est installé dans ses modalités de travail hybrides, c'est-à-dire un mélange des deux. Il est là pour durer. Et le petit retour de bâton, il s'explique principalement par une conjoncture qui est celle aujourd'hui d'une économie où on recrute moins. Donc le rapport de force a changé et les entreprises qui font le retour complet sur fini le télétravail sont des entreprises qui cherchent à faire partir des gens. C'est un plan social déguisé. Les entreprises de la Silicon Valley, gros paradoxe, qui sont celles qui ont créé les outils avec lesquels on peut télétravailler, qui ont toutes à un moment dit fini la récré, fini le télétravail, ont licencié à peu près 1 million d'individus ces 2-3 dernières années. Hein, à l'échelle de toute la Silicon Valley. Et puis, les organisations comme en France Ubisoft, etc., sont dans des situations où on ne cherche pas du tout à recruter. Si, en revanche, vous cherchez à recruter ou cherchez à garder vos équipes, il n'y a pas de gros changements souhaitables. En fait, on est dans une recherche d'équilibre, toujours à inventer et de nouveaux rituels à inventer et puis de présentéisme à supprimer. Et ça, que l'on soit en ligne ou en présentiel, c'est toujours un travail à faire et des nouvelles choses à imaginer.
J'aurais encore de très nombreuses questions à vous poser, mais je vois que le temps file à grande vitesse. Je voudrais simplement vous remercier, chère Laetitia Vito, pour votre présence et tous ces propos à ce micro. Pour ma part, je pense que j'ai un peu rajeuni en lisant votre livre « L'atout âge ». Je ne sais pas comment on le prononce. L'atout âge ou l'atout âge ?
Eh bien, j'aime bien la liaison parce que l'atout âge, ça dit bien ce que ça dit. C'est que quand on parle d'âge, on ne parle pas que des seniors. On parle aussi on a toujours un âge. Qu'on ait 2 ans ou qu'on ait 92 ans, on a un âge.
L'atout âge. C'est un livre passionnant qui brasse un grand nombre de thématiques. On en a abordé beaucoup aujourd'hui dans cette émission, mais croyez-moi, il y en a encore beaucoup à explorer dans cet ouvrage très profond et surtout plein de bon sens. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à ce micro pour cette 60e émission de Complètement à l'Ouest. Et puisqu'il a été question d'âge tout au long de cette émission, il me revient cette phrase nostalgique de Sacha Guitry, à qui on attribue ce propos. Si tu savais ce que c'est que d'avoir 30 ans, il faut sans doute les avoir au moins 2 fois pour le comprendre. Tout comme nous l'avions fait pour la 50e émission de Complètement à l'Ouest, avec la présence de la journaliste grand reporter Marine Jacquemin, nous allons prendre un peu de temps, une fois que le micro sera coupé, et bien tout simplement pour souffler un gâteau, pour célébrer cette 60e émission en votre compagnie, et celle de toute l'équipe technique, y compris celle de Sylvain Lévy-Valency, qui je sais, en tout cas je me doute qu'il est en régie. Je voudrais en profiter pour le remercier très chaleureusement pour sa confiance tout au long de ces 60 émissions maintenant, et je souhaite qu'il puisse poursuivre en me confiant toujours ce micro pour les 60 autres émissions à venir. Et j'espère, chère Laetitia, que nous nous retrouverons dans 60 autres émissions pour votre 47e ouvrage, pour l'émission numéro 120. Vous y serez bien sûr la bienvenue. Complètement à l'Ouest reviendra le mois prochain lors d'une 61e émission avec un sujet tout autre, puisqu'il y sera question d'optimisme. Nous en avons tant besoin. J'accueillerai à ce micro l'auteur Eddie Fougier qui vient de publier « Pourquoi pense-t-on que le monde va de plus en plus mal ?» avec ce sous-titre « Le fléau du pessimisme pour la démocratie ». Petit livre tout à fait revigorant qui est paru aux éditions de l'aube. Voilà, une fois de plus, je bien sûr voudrais remercier toute l'équipe technique en régie sans qui ces émissions ne seraient pas disponibles. Et je vois que Sylvain Lévy-Vanancy arrive dans ce studio. Je lui passe tout de suite la parole. Sylvain, c'est la 60e émission. Me confirmes-tu que 60 autres émissions à venir sont toujours prévues et que ce micro pourra continuer à vivre grâce à toute l'équipe, grâce à toi et grâce à Complètement à l'Ouest.
Alors, justement, je vais profiter de passage, parce que je n'ai pas la chance de suivre toutes tes émissions, mon cher Philippe, puisque tu as vu l'évolution aussi de notre média, hein, depuis qu'on l'a créé. C'était un pari, hein, de créer un média dans une ambiance où les médias n'avaient pas forcément la cote. Ils n'ont toujours pas la cote, hein, je précise, dans leur modèle économique, et on s'est défendu, et on va fêter nos 10 ans. Justement, tu fêtes effectivement ta 60e émission et on va fêter nos 10 ans au RENT, le Real Estate et New Technology, qui a lieu début novembre, porte de Versailles. Et c'est aussi l'occasion de souligner, et je profite de ton passage, puisque en vous écoutant, finalement j'ai pris un coup de jeune dans une certaine mesure, et j'ai calculé le nombre d'années où j'avais commencé à travailler. Et j'ai commencé à travailler il y a exactement 45 ans. Puisque j'ai eu la chance pendant 10 ans d'être compagnon du devoir, j'étais boulanger à l'époque, et il m'a pris ensuite la bonne idée de devenir avocat, je sais pas pourquoi, mais bon, les choses se sont faites comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose dans ce que vous disiez très justement, et finalement qui augure bien et qui dépeint assez bien l'ADN de l'émission Complètement à l'Ouest, parce que tu déconstruis finalement beaucoup les idées reçues, et je trouve que
grâce à mes invités, évidemment,
je trouve que nos amis de France Inter seraient très inspirés justement de reprendre cette émission Complètement à l'Ouest. C'est de dire que il y a une grande diversité dans les âges, et que même si le vieil adage consiste à dire que l'expérience n'éclaire que le chemin parcouru, c'est quand même un repère dans le temps, et que si on veut savoir où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient. Et ceux qui sont dépositaires de cette mémoire, ceux qui sont dépositaires de ce savoir, qui sont dépositaires aussi d'un autre âge, peut-être, alors, ok, peut-être obsolète, peut-être avec des méthodes un peu ringardes, peut-être un peu vieillottes. On a eu nos vieux quand j'avais 20 ans aussi. Et maintenant, je suis le vieux de celui que j'étais quand j'avais 20 ans. Donc, quelque part, c'est une bonne leçon de vie de penser que, dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui est assez terrifiant. Je vous le dis, terrifiant parce que nous sommes dans un continent vieillissant. En Europe. L'Europe est un continent vieillissant. En 2050, un tiers de la population française aura plus de 65 ans. Et la place du logement, la place des aidants, vous en avez parlé tout à l'heure, elle est primordiale. Et c'est vrai qu'aborder philosophiquement cet âge, comme n'étant plus finalement le troisième âge, parce que c'était une notion finalement assez rétrograde, quelque part, c'est de dire que finalement le mot le pire qu'on ait inventé depuis la 5e République, c'est le mot retraite. Parce que dans le mot retraite, il y a le mot retirer. Il y a le mot je me retire, je ne suis plus utile. Et les sociétés parfois amérindiennes ou les sociétés africaines nous rappellent d'ailleurs avec une certaine brutalité, dans une certaine mesure, que ce contact que nous avions perdu en quittant les campagnes, en quittant la ruralité pour aller vers le monde industriel, parce que c'est un accident de l'histoire de travailler dans un bureau, ça n'a commencé qu'au 19e siècle, on a oublié finalement quelque chose d'essentiel qui crée le lien, qui fait communauté, qu'aucune application ne remplacera. Qu'aucune technologie ne remplacera également, parce que le rapport tactile à l'humain est important. Et vous avez notamment parlé du télétravail, la place du télétravail. C'est très intéressant, parce que souvent le télétravail a été pris comme un élément hors bilan ou un élément contingent des politiques de ressources humaines, alors qu'en réalité, c'est une vraie transformation anthropologique des villes, du monde et des sociétés modernes. Et que le télétravail, finalement, a eu deux vertus majeures, qui est celle de redécouvrir les vertus de son environnement, c'est-à-dire de prendre contact directement avec son environnement. Et le deuxième point, c'est dans cet environnement, de reprendre lien société ou faire souche ou société avec son environnement proche sur lequel finalement on était un peu zombie puisqu'on partait le matin tôt. Éventuellement, on connaissait un peu le boulanger, on revenait tard, on dormait, et c'est aussi une prise de contact avec son propre logement. Et toutes les inéquités qui se sont révélés grâce au télétravail. Pour conclure sur ce que vous disiez très justement, c'est de dire comment finalement, quelque part, le bureau ou le lieu de travail peut être aussi la symbolique qui crée cette cohésion sociale dont les sociétés ont besoin, en termes de vitalité démocratique, de capacité du débat, de liens sociaux, mais aussi de repères dans l'espace. De repères dans l'espace, par exemple, d'un quartier qui se renouvelle, d'un tissu urbain qui devient de plus en plus mixte. Tu connais bien le sujet, puisque chez Covivio, vous êtes très ancré sur la mixité sociale et la mixité fonctionnelle. Donc, votre livre m'a inspiré une maxime, parce qu'il adore les maximes de Victor Hugo. Quand je lis votre bouquin, je pense à Victor Hugo qui disait la chose suivante. Je préfère le présent au passé, car c'est là que j'ai décidé de vivre le restant de mes jours. Et je pense que l'idée de vivre au présent son âge, quel qu'il soit, sans avoir forcément recours à des artifices, sauf si la faculté vous oblige, ça a été mon cas il y a quelques jours, je trouve que c'était extrêmement sain. Malheureusement, c'est un mouvement qui est un peu minoritaire, et c'est un message à l'endroit des managers qui devrait être non seulement développé, et on est ravis, en tout cas je suis ravi que toi, Philippe, et puis vous donner la parole, parce qu'on devrait vous écouter beaucoup plus souvent, bien évidemment. Et je voudrais juste dire une chose pour toi, Philippe, c'est que tu es quelqu'un d'absolument délicieux.
Merci, Sylvain. Merci.
Délicieux à tout point
rougis,
de vue.
Je rougis.
Une conjugaison assez esthétique, d'une certaine élégance, et qui n'est pas une élégance de forme, qui est une élégance de fond. Puisqu'on est souvent à l'intérieur, ce qu'on est à l'extérieur et vice versa. T'es quelqu'un de profondément bon et de profondément beau à l'intérieur. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça nous renvoie à cette idée que la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde, mais l'intelligence du cœur également. Et tu as cette capacité, mon cher Philippe, c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de t'écouter. Et j'ai toujours insisté contre vents et marées à la rédaction pour qu'on maintienne ton émission, quoi qu'il en coûte, de manière, pourquoi ? Parce que tu sais à la fois conjuguer cette profondeur philosophique, parfois un peu abstraite, mais une intelligence du cœur. Et je peux dire d'ailleurs qu'en technique, nos amis Jason, Théo ou Baptiste sont toujours ravis de te recevoir, parce que c'est toujours un plaisir, et tu as toujours cette capacité, cette simplicité à dire bonjour à toutes et à tous. On est très fiers de t'avoir dans le média.
Merci beaucoup.
Et on souhaite que tu continues. Voilà ce que je voulais te dire.
Mais mille merci, cher Sylvain. Laetitia, un mot en rebond à ce que disait Sylvain. Juste, Sylvain, si tu me permets, le mot retraite, en effet, l'émission se poursuit. On l'a tous bien compris, d'abord.
On va faire une entorse. Nos amis en régie... On fait fonctionner. Oui, tu disais.
Donc, je citais sur le mot retraite. En espagnol, le mot retraite se dit jubilación. Voilà. Et je trouve que c'est un très beau mot qui permet, en effet, d'illustrer le fait que la retraite n'est pas du tout quelque chose où on se met en arrière, où on part vers le passé. Au contraire, jubilation, on profite pleinement.
Nous avons un de nos experts qui est directeur éco-transition chez Sofinco, avec qui on travaille, un gros partenaire, et qui est également l'un de mes éditorialistes dans mon émission qui s'appelle Parlons Immo tous les samedis matins, qui s'appelle Laurent Permas, qui a écrit un livre qui s'appelle Manifeste pour la liberté de vieillir. Un manifeste pour la liberté de vieillir. Et il dit la chose suivante: la retraite n'existe pas, la vie est devant nous. Et son émission s'appelle La vie devant nous. Elle a lieu tous les dimanches, et je vais demander à ce qu'on vous invite, bien évidemment, pour en parler.
Laetitia, un mot de conclusion, si je puis dire, par rapport à tout ce qui a été dit.
C'est difficile d'en rajouter, parce que c'était une très très belle conclusion, absolument. D'ailleurs, sur la retraite, on voit bien que c'est en train déjà de s'hybrider, de se transformer. Cette idée de la falaise, là, on est un membre actif de la société, puis d'un coup, du jour au lendemain, plus rien. On voit bien que plus personne ne veut de ça. On veut avoir des transitions douces, on veut continuer sur des projets qui nous plaisent, on voudrait réinventer, et ça se réinvente déjà. Et c'est ça où je rejoins la promesse de l'épisode sur l'optimisme, c'est qu'il y a plein de choses très belles qui sont en train d'être inventées là-dessus, du bénévolat au travail associatif, à l'entrepreneuriat des personnes plus âgées, en passant par la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, etc. On voit bien que la retraite, elle change de visage, et c'est quelque chose de formidable, parce que on n'a pas envie de se retirer et surtout de disparaître et de mourir avant l'heure.
Parce que vous faites un lien extrêmement puissant sur l'identité sociale. Et en fait, on a toujours finalement galéré dans les sociétés modernes pour savoir quel verbe précédait l'autre, être ou avoir. Et dès lors que vous dites qu'on va faire précéder à l'avoir le côté être, déjà on définit une autre strate. C'est-à-dire qu'on définit des polarités d'intérêt, de passion, de hobby, etc. Mais malheureusement, on se heurte à une réalité qui est extrêmement pénible, qui est celle du pouvoir d'achat. Parce que, ok, pour la retraite, ok, allez, j'arrête de travailler, j'ai une autre vie qui s'annonce, etc. Sauf que les systèmes de retraite, les systèmes de prise en charge, paupérisent une partie de la situation. Et donc, dès lors que vous paupérisez une partie de la situation, de la population, vous ramenez cette population à des besoins primaires, à des besoins masloniens. Ce sont des besoins qui se referment sur eux-mêmes, la peur du lendemain, la peur de la maladie, etc. Et malheureusement, on vit une époque, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais on vit une époque aujourd'hui, qui est une époque qui est en train de régresser. Elle régresse parce qu'on voit naître ça et là, partout en Europe, des obscurantismes, des fanatismes, des replis identitaires, des replis nationalistes, etc. Et il ne faut pas s'y tromper, le nationalisme, c'est la guerre, point. Et que dans ce langage réactionnaire, clairement de droite, voire d'extrême droite, on veut revenir à cette société paternaliste dans laquelle le patron, le patronat entre guillemets, et Dieu sait que je suis moi un employeur ici, donc je peux aussi m'y inscrire, et donc je suis assez crédible quand je le dis, puisque ça fait 30 ans que je dirige des entreprises, à cette tentative réactionnaire, finalement, d'avoir une espèce de dictature au travail pour revenir à des poncifs ou à des clichés dont une certaine partie des capitaines d'industrie ont vu disparaître les effets. Et que quelque part, cette notion économique qui est en train de se développer pourrait être finalement quelque part la victime de ces projets, de cette société qui doit nécessairement se transformer. Oui, effectivement, pour avoir une autre partie de sa vie belle, encore faut-il en avoir les moyens, avoir les possibilités de choisir. Et c'est un vrai sujet en soi qu'on peut pas éluder quand on parle de ce sujet, parce qu'après on va tout de suite être catalogué comme des bobos qui faisons du vélo.
L'âge et l'argent, voilà, c'est un vaste sujet. Pour l'instant, l'argent est dans les mains des plus âgés. Hein, les personnes retraitées sont plus riches que la population active, avec des inégalités évidemment.
Très fortes inégalités,
c'est qu'il y a un tiers des retraités qui vivent avec moins de 1000 euros par mois.
Exact.
Parmi ce tiers, on a 75% de femmes. Hein, c'est trois quarts sont des femmes, hein, les vieilles pauvres. On va pas se cacher derrière des mots, des euphémismes. Mais il y a beaucoup de choses qui se jouent aussi sur les sujets de l'immobilier. Hein, c'est que l'accès au logement est extrêmement compliqué pour les plus jeunes, qu'on ne peut plus accéder à du patrimoine avec des revenus du travail, ce qui était le cas pour les générations précédentes. Donc il y a effectivement des différences générationnelles dans le rapport au patrimoine, dans le rapport à l'argent, aux revenus et donc au travail, parce que les fruits du travail ne permettent pas d'avoir une vie qu'on pouvait avoir il y a 30, 40, a fortiori il y a 50 ans avec les revenus de son travail. Donc c'est un vaste sujet. On va observer des choses intéressantes aussi parce que on va vivre avec le départ et puis le décès progressif des générations de boomers. On va vivre le plus grand transfert de richesse, transfert générationnel de richesse qu'a connu l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que l'argent va changer de main très, très, très massivement dans tous les pays vieillissants qui sont les nôtres.
Un rapport de la Fondation Jean Jaurès, me semble-t-il, assez récent, sur ce sujet, sur le transfert du patrimoine.
Et un transfert qui va se faire d'ailleurs également à l'échelle de l'Europe et à l'échelle des États. Et les polarités s'inversant, je vous garantis que d'ici 20 ans, en France, on sera très content de trouver un peu de travail en servant le café dans un bar ou dans une pâtisserie à des, à des jeunes Chinois qui viendront en villégiature en France parce que c'est sympa la France, ou d'autres pays où les pouvoirs s'inverseront. Cette dégradation est une dégradation lente, c'est un poison lent et ça s'appelle le déclin démographique.
Absolument.
Si vous prenez la démographie indienne, vous prenez la démographie africaine, notamment l'Afrique continentale, par exemple, ou les pays asiatiques, vous comprenez tout de suite que les enjeux démographiques sont de toute façon, le combat est déjà perdu de toute façon.
Alors la Chine vieillit encore plus vite que la France. Hein. Ça va aller très très vite.
Je propose qu'on continue cette discussion autour du gâteau d'anniversaire, puisque c'est l'occasion surtout de rappeler les 10 ans de Radio Emo. Donc par avance, bon anniversaire.
Joyeux anniversaire
Radio Emo. 10 ans au Rent, le 5 et le 6 novembre.
Exactement. Bon anniversaire complètement à l'Ouest. Il y aura d'autres émissions. Merci Sylvain de l'avoir rappelé, mais merci encore une fois pour ta confiance. Et puis je rappelle que nous avons largement parlé sur tout un tas de sujets politiques économiques, sociaux, au bon sens du terme, et démographiques, avec Laetitia Vito, qui, si je comprends bien, chère Laetitia, vous reviendrez au micro de Radio Imo.
Pour la 120e.
Exactement, et peut-être même avant, puisque Sylvain, ici présent, vous a invité, en tout cas sur les sujets que nous évoquions en marge de l'émission. En tout cas, je rappelle, puisque l'émission va sortir au mois de décembre, que l'atout âge paru chez Erol peut être un magnifique cadeau à trouver au pied du sapin, et en tout cas en discussion familiale pendant le repas de Noël sur toutes les thématiques que nous avons largement abordées aujourd'hui. Merci encore, merci beaucoup Laetitia, merci Sylvain pour ta présence en studio, et puis on se retrouve le mois prochain, et je crois qu'on peut envoyer maintenant le jingle de fin.
Complètement à l'Ouest, une émission à réécouter et télécharger sur les sites et applis de Radio Imo et Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.